Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus. Si vous découvrez l'Évangile et que vous venez pour la première fois, écoutez comme vous venez de le chanter certainement. Tout à l'heure, après le culte, nous partagerons la communion fraternelle. C'est un grand bienfait. D'avoir des frères et des sœurs, c'est un grand bienfait. Nous aurons, je le crois, un moment où nous pourrons peut-être répondre à cette prédication. C'est un moment sérieux si vous êtes des pécheurs, si vous n'êtes pas convertis, si vous n'allez pas sur ce chemin de gloire, croyez-moi, c'est peut-être le moment le plus important de votre vie. Nous partagerons le pain et le vin. Ça, c'est un immense privilège que de pouvoir glorifier le Seigneur Jésus au travers de ce pain et de ce vin qui représente son œuvre à Golgotha. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je sais que ma responsabilité, elle est réelle. La Bible nous demande de semer. La Bible, quand elle parle au pasteur, elle dit semer avec douceur. Mais elle demande aussi aux chrétiens de recevoir avec douceur. Vous savez, il n'y a pas que le travail de l'agriculteur qui sème. Il y a le travail du terrain qui reçoit. Et si nous vivons ce moment avec sérieux, avec le cœur ouvert, beaucoup de gens n'ont pas le cœur ouvert, je le sais, puisqu'ils ne changent pas. Si vous ne changez pas, ne vous mettez pas en tête que c'est les problèmes. Si vous ne changez pas, c'est parce que votre cœur est fermé. Mettez-vous bien ça en tête. Et vous demandez normalement à votre conjoint, à vos amis les plus proches, vous devriez le savoir. Vous savez, quand je prêche, comme ce matin, des fois je me dis, c'est peut-être la dernière fois que tu prêches. Est-ce que ça pourrait être la dernière fois? Ben oui. Si je meurs, ou si le Seigneur revient, ça serait la dernière fois. Et vous comprenez bien que moi, je n'ai pas envie de passer à côté de ma responsabilité, de mon devoir, de tout faire pour qu'un pécheur passe des ténèbres à la lumière. Nous allons lire une parabole que le Seigneur Jésus a adressée aux hommes. Une parabole qui contient cette expression qui revient 7 fois. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Cette expression qui est d'une sévérité complète, cette expression que Jésus seul a utilisée, cette expression, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a que Jésus qui a utilisé cette expression. Lisons cette parabole. N'oublions pas que les paraboles, ce sont des images terrestres pour expliquer des vérités spirituelles. Lisons-le avec beaucoup de respect. N'oublions pas, c'est la parole de Dieu, c'est pas un homme, c'est pas Matthieu, c'est pas un pasteur, c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Et n'oubliez pas que ces paroles sont esprit et vie. Matthieu 22, verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » On pourrait dire « il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. » Oui. Si vous avez lu la parole, vous savez que la parole est remplie de grâce. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce qui va s'achever, pour laisser place à 7 années de tribulation, dont 3 et demi qui vont être extrêmement sévères, où un dictateur mondial imposera une dictature d'une sévérité qui fera que les gens qui se convertiront après l'enlèvement seront décapités s'ils veulent rester chrétiens. Écoutez, c'est écrit, faites-moi confiance, je ne vais pas vous lire tous les textes. Après l'enlèvement, les vierges folles, tous ceux qui n'auront pas été sérieux lorsque la parole de Dieu était prêchée, vont connaître les pleurs et les grincements de dents. Je sais que c'est en partie dû aux serviteurs de Dieu qui n'ont pas fait leur travail. Mais ce sera des moments terribles qui vont venir sur la terre. Ce que nous avons vu cette semaine aux informations, et ce n'est pas par mépris, croyez-moi, n'est rien à côté de ce qui va arriver. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une guerre. Une guerre qui sera dirigée par la Russie et par l'Iran pour essayer de détruire Israël. Cette guerre sera interrompue par Dieu. Il y aura 2,2 milliards de personnes qui vont mourir. C'est dans ce contexte que sera le monde lorsque l'Église, après que l'Église soit enlevée. Il n'est pas possible, écoutez ce que je vous dis, c'est vérifié. Il n'est pas possible que l'Église connaisse cette fameuse guerre de Gog et Magog. C'est impossible. Tous les textes bibliques prouvent que l'Église, elle sera épargnée de la colère à venir. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais plein de chrétiens ne sont pas prêts. Et ce texte que Jésus a donné, il l'a donné à toute l'Église, sur tous les siècles. Cette parabole que nous utilisons régulièrement pour l'évangélisation, et nous pouvons utiliser toutes les paraboles, bien sûr, pour faire de l'évangélisation et aussi de l'édification. Cette parabole nous indique qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le royaume n'importe comment. Vous avez vu la question au verset 12, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» C'est Jésus qui pose la question. D'ailleurs, il pourrait nous la poser ce matin. Très sincèrement, « Comment es-tu entré ici ce matin ?» Vous devez répondre, pas à haute voix, mais vous devriez répondre « Comment êtes-vous rentré ici ce matin ?» Il y a des gens, ils viennent, ils pensent à autre chose. Je ne dis pas que ça peut nous arriver. « Ah, est-ce que je n'ai pas laissé le four allumé ?» Moi, ma femme, souvent, on a 3 minutes de la maison, il faut qu'on retourne, j'ai oublié le four. Ça fait 37 ans que ça ne s'est jamais arrivé, mais ça fait 37 000 fois qu'on le fait. Ça peut arriver de penser à quelque chose, oui ou non ? Mais merci quand même pour tous les gigots qui ont cuit. Mes frères et sœurs, ça peut arriver, même pendant une prophétie, quand Monsieur de Dieu donnait ce don spirituel sur la richesse éternelle. Moi, je pensais ce matin, quand j'étais à genoux, et franchement, c'est la vérité. Mais je disais, et c'est vrai ce que je vous dis, je ne le dis pas, ce n'est pas une blague, c'est léger. Quand je suis à genoux, je sais que je suis plus riche que Madame Bettencourt. Vous savez qui c'est, Madame Bettencourt ? C'est la femme la plus riche de France. Elle est milliardaire. Et je vous le dis devant Dieu, quand un homme est à genoux devant Dieu, un homme, une femme, il est plus riche que n'importe quel milliardaire. Parce qu'il travaille au salut des âmes. Et qu'une âme vaut plus que toute la terre réunie. C'est Jésus qui a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde, comme si ça pouvait exister, s'il perdait son âme. Dont les richesses, on ne les conçoit pas. C'est parce que les chrétiens sont légers. Ils sont rentrés n'importe comment. La semaine prochaine, on va avoir 10 de baptêmes. J'espère que tous les baptisés ne sont pas rentrés que parce que Dieu les a bénis, mais qu'ils sont rentrés avec les conditions requises. Jésus a dit, avant de baptiser les gens, faites des disciples et baptisez-les. Nous, on baptise des gens en espérant peut-être qu'ils vont devenir des disciples, parce qu'on a besoin de baptiser des gens, parce que si on ne baptise pas des gens, mais ça va mal. Qu'est-ce que va penser le conseil ? Qu'est-ce que va penser l'Église ? Eh bien, moi, ça m'est égal. Ce qui est important, c'est que vous ressortiez avec l'assurance du salut. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Ces paraboles, elles ont été écrites pour le salut de notre âme. Vous devez, à la fin de cette exhortation, quand vous allez prendre le pain et le vin, vous devez pouvoir dire « Je suis sauvé, je suis perdu ». Et si je suis perdu, eh bien, je vais demander pardon à Dieu, à moins que vous voulez rester dans le péché, et connaître ou vérifier ce que je vous ai dit en introduction. Parce que c'est exactement ce qui va arriver, que personne ne se mette en tête que le Seigneur il va changer d'avis. Les prophéties, c'est les choses les plus extraordinaires de la Bible. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des centaines, des milliers de prophéties dans la Bible? Cette parabole qui est une exhortation aux chrétiens et la possibilité à un pécheur de passer des ténèbres à la lumière est en vérité une prophétie. Ça va arriver comme ça. Comment es-tu entré? Moi, je suis peiné quand je vois des gens qui viennent à l'église avec une légèreté. Je ne parle pas vestimentaire. Je pense que quand on vient dans la maison du Seigneur, on ne vient pas léger. Même vestimentairement, il me semble qu'on fait gaffe. Oui ou non? Mais spirituellement, comment? C'est une question qui va être posée. Comment es-tu entré ici? Comment es-tu rentré dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous dites, ah ben moi j'étais catholique, je suis devenu évangélique, c'est bien, c'est mieux. Mais mes frères et sœurs, tout ça c'est du blablabla. Comment es-tu rentré dans le royaume de Dieu? Vous devez répondre, vous devriez, en tous les cas au Seigneur, pas moi. Moi, je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous questionner, pour vous interroger. L'interrogation, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une véritable bénédiction lorsqu'on comprend les choses de Dieu. On a terminé dimanche dernier avec ce texte terrible où le Seigneur dit, mais les gens, à la fin du temps, ils auront l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Il n'y a que Dieu qui sait si moi, le premier, je ne suis pas dans l'apparence. Je peux faire la comédie. Je sais prêcher. Et je me contente de ce don. Et je fais du cinéma. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et bien sûr, ça ne dure pas longtemps en principe. Mais quand même, ça peut durer un moment. Combien de temps ça dure? Allez, combien de temps ça peut durer? Les pasteurs, là. Je pense qu'on peut faire, du cinéma. Après, je pense que lorsque des fruits sont attachés avec un bout de ficelle, ça se voit vite. Oui, c'est vrai. L'apparence de la piété. Il y a plein de chrétiens. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Mais ils en renieront ce qui fait la force. Donc, nous, notre souci, c'est vraiment de pouvoir nous dire, mais qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Puisque les gens renient ce qui fait la force de la piété. Donc, mon devoir ce matin, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? Il y a deux choses, deux vertus qui font la force de la piété. Elles sont imparables, elles sont bénies. C'est la repentance et la sainteté. C'est pour ça que lorsqu'un chrétien ne va pas bien, le Seigneur lui dit, repens-toi. Repens-toi afin que tes péchés soient effacés. On terminera avec ces versets tout à l'heure. Est-ce que vous réalisez la bénédiction que le Seigneur nous propose encore ce matin? Que notre attitude de cœur fera que nos péchés sont effacés. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on vient de dire. Vous rendez compte, ce matin, n'importe qui, parce que la porte est encore ouverte, mais pour combien de temps, n'importe qui peut ressortir de ce lieu le cœur lavé. Afin que vos péchés soient effacés. C'est David qui disait, parce qu'au bout d'un an, quand même, il a fallu qu'il soit confronté à la parole de Dieu par Nathan, cet homme qui a eu du courage pour aller lui dire la vérité. Tu es cet homme-là. Et le soir même, il a composé deux psaumes, dont le psaume 51, quand il dit, mais efface mes transgressions. Effacé. Vous rendez compte? Quel bonheur. Le Seigneur a tout effacé. Comme sur un tableau, vous savez quand on était petit à l'école, qu'on effaçait, il y avait quelqu'un qui effaçait, il n'y avait plus rien. Quelle grâce qu'un homme puisse dire « tu as effacé mes péchés » et pas faire du cinéma avec des pseudo-repentances, avec des pseudo-simulations de piété. La repentance, c'est quelque chose de sérieux. Le Seigneur, il dit pas « bon, mais ça va pas, soyez gentils ». Des fois, on me le dit. Je me souviens, ma mère qui est auprès du Seigneur, elle me disait, je ne comprends pas ce pasteur, pourtant il est gentil. J'ai dit, maman, un pasteur, il ne faut pas qu'il soit gentil. Un pasteur, il faut qu'il soit spirituel. C'est bien qu'un pasteur soit gentil, c'est clair. Je ne sais pas, vous me le direz peut-être. Mais je veux dire, ce n'est pas important que je sois gentil ou pas, oui ou non. Qu'est-ce que vous préférez, que je sois gentil ou spirituel? Les deux. Je pense quand même, merci, mes frères, je savais. Je pense quand même que si quelqu'un est spirituel, il peut avoir quand même de la gentillesse. D'accord? D'accord. Quelle grâce de pouvoir prier, d'être là, de te rendre compte pourquoi Dieu a institué la scène. Pour qu'on puisse s'éprouver soi-même. Vous rendez compte, la bénédiction, il y a des gens, ils viennent, c'est du cinéma. Il y a plein de gens qui ne sont pas prêts. Vous le savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Que lorsque le Seigneur viendra et qu'il fermera la porte et que l'Église ira à la rencontre de l'époux, il n'y en a que la moitié qui seront prêts. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toute l'Église qui sera enlevée. C'est l'épouse, et sans jouer sur les mots, l'Apocalypse dit que l'épouse, elle s'est préparée. Et c'est exactement ce à quoi correspond notre culte, qui est un culte de louange, d'adoration, de communion, de grâce. Mais c'est aussi, c'est d'abord un culte où véritablement je me prépare. C'est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça va arriver. Vous le croyez vraiment que Jésus va revenir ? Vous le croyez vraiment que vous n'allez pas vivre éternellement ? Il y a des gens qui vivent comme s'ils allaient vivre 200 ans. Tant mieux si vous avez de l'espérance. Mais franchement, Dieu peut vous reprendre ce soir. Qu'aurez-vous fait de cette parole ? Qu'aurez-vous fait de cette prédication ? Je suis sûr, en plus, il y en a plein qui prient, Seigneur, donne un bon message à ton serviteur. Il y en a qui le font, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Donne un bon message à ton serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une bonne prédication qui nous fasse du bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, nous faire du bien ? Ça veut dire qu'en vérité, on va se corriger, on va tenir compte, s'il n'y a pas besoin de repentance, peut-être que de correction. Le Seigneur ne dit pas tout le temps de se repentir. Le Seigneur nous demande parfois de corriger le tir, de travailler. Si ça nécessite de la repentance, qu'elle soit vraie. Ce gars qui est rentré, il est rentré. Il est rentré dans le royaume de Dieu. Il est rentré dans l'Église. Mais il n'y a que du cinéma. Il n'a pas accepté les conditions. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs ? Il est entré. Il a accepté l'invitation. Il fait partie de ces croyants qui ont dit « Oui, j'ai besoin de Jésus. Tout ça, ça doit être vrai. J'espère que c'est vrai. » Il y a plein de gens qui sont dans le pseudo-spirituel. Ils espèrent que c'est vrai. Ils espèrent. Ils sont rentrés n'importe comment. Et il y a plein de gens comme ça qui s'imaginent. Vous vous rappelez dans une autre parabole, il y a une parabole où Jésus parle d'un homme qui était pauvre, qui s'appelait Lazare. Ça veut dire « Dieu est mon secours ». Et un autre qui était dans la maison à côté, qui avait une belle maison, qui avait de l'argent. Il nous a dit que cet homme, il était revêtu d'habits de fin lin. Alors quand tu vois ce type, tu te dis « Ah, c'est un homme, il doit... » Et en plus, il fait des œuvres. Enfin, des œuvres, c'était des miettes. Enfin bon, il était revêtu de fin lin. Le fin lin, c'est l'image des œuvres justes des saints, c'est-à-dire de la conséquence du salut. Parce que je suis sauvé, je ne peux pas ne pas faire d'œuvres. Si vous ne faites pas quelque chose pour Dieu, écoutez-moi, frères et sœurs, moi je vous plains, c'est qu'il n'y a pas de communion avec Dieu. Vous pouvez le dire, peut-être on ne le voit pas, nous. Je ne vous parle pas de choses dans l'Église. Mais si vous ne faites pas d'œuvres pour Dieu, s'il n'y a pas des œuvres réelles, ce que Dieu vous demande. C'est Nicolas hier qui disait, mais peut-être c'est un coup de fil à une personne âgée qui a besoin d'être entourée, une visite par mois. Mais quelque chose, parce que Dieu peut demander des choses toutes simples à quelqu'un, oui ou non ? Mais Dieu ne veut pas nous demander d'être des bourreaux de travail. Dieu nous demande de faire quelque chose. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu, il ne peut pas ne pas faire quelque chose. Si vous ne faites rien pour Dieu, moi je vous dis, mettez-vous à genoux et repentez-vous. Si vous êtes feignant, paresseux, si vous êtes léger avec ces choses, si vous dites, ouais, il y a assez de monde dans l'église, il y a quelqu'un qui s'occupera des gosses, moi je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps ? Mais moi je veux pas, on ne va pas argumenter avec une discussion aussi stérile. Vous vous mettez à genoux, dans une véritable communion, dans une véritable adoration, et Dieu vous mettra à cœur quelque chose. Et vous l'accomplirez avec joie. Vous comprenez, mes frères et sœurs ? Moi, je suis attristé. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui est attristé pour que je puisse corriger certains tirs de chrétiens qui font rien. Si, je le dis entre parenthèses, parce que c'est pour vous aider. Vous êtes capable de juger. De juger la prédication, moi ça m'est égal. De juger tel frère, de juger telle sœur. Écoutez, moi je vous dis arrêtez. et mettez-vous dans l'adoration. Jésus a dit, tu l'adoreras et tu le serviras. Un véritable adorateur, c'est clair, c'est pas quelqu'un qui prononce je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore et qui vit dans le péché. Un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit. Et quand quelqu'un obéit à Dieu, eh bien, il découvre ce qu'il a à faire. Il n'entre pas comme ce gars qui a voulu rentrer, comme le mauvais riche qui donnait l'image d'un type super saint parce qu'il faisait des œuvres. Mais c'est pas les œuvres qui sauvent. Et en même temps, on ne peut pas ne pas faire une œuvre. Mais les œuvres ne sauvent pas. Nous sommes sauvés par grâce. Ce matin, la conclusion de notre culte, quelle que soit la tournure qu'il prend, doit se terminer par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu, par la bénédiction de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la grande miséricorde de Dieu. Vous croyez que Dieu est grand et il peut sauver n'importe quel pécheur, mais il ne faut pas faire du cinéma. Il ne faut pas faire du cinéma. Il faut véritablement rentrer comme Dieu le veut, pas avec nos idées à nous. Moi, je n'ai pas besoin de me convertir. Il y a un pasteur qui a dit ça dernièrement dans un rassemblement. Je pense qu'il va avoir des comptes à rendre. Il a dit que pour être chrétien, il n'y a pas besoin de se convertir. Je pense qu'il ne devait pas l'être beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a dit ça. Si quelqu'un ne se convertit pas, donc ne se repent pas, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et cet homme, c'est Jésus, imaginez-vous cette délicatesse, parce qu'en plus Jésus aurait pu ne pas donner cette parabole, après tout il n'était pas obligé. Pourquoi il l'a fait? Pour que justement on soit sérieux. Comment je suis rentré dans le royaume des cieux? Moi je vous dis, je le sais dans mon cœur, il y a des gens qui sont dans une légèreté pas possible, ils sont légers avec Dieu. Vous rappelez comment Belshazzar, il a été léger avec les choses de Dieu, il a fait le malin. Il y a des gens, ils font les malins, ils s'imaginent qu'ils connaissent, ils s'imaginent qu'ils obéissent, et monsieur s'est permis, c'est sûr qu'il avait bu un coup, et il s'est permis de prendre les vases sacrés qui avaient été volés dans la maison du Seigneur, et il s'est moqué de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On peut rire, et il y a un temps pour rire, et on peut s'amuser, et on peut se détendre, et tout ça, ça fait partie de la vie, et on en a besoin. Mais on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne rit pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. D'autant plus que ce texte, plein de sévérité, plein de grâce, nous rappelle que tout est prêt. Il y a longtemps que tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt dans les cieux. Le repas des noces, je ne sais pas comment ça va marcher, mais tout est prêt. Vous le croyez que Jésus a tout accompli au calvaire? Tout est prêt. Vos vêtements de fin lin sont prêts. Il y a un super hangar sûrement, ou dans votre maison, je ne sais rien comment ça va se passer, où vous allez trouver vos robes de fin lin. C'est bien? Vous aimez les pains de riz? On risque d'être surpris. Sans poussière. Mes frères et sœurs, un chrétien, il est sérieux. Quand il prie, notre Père qui es aux cieux, quelle est la suite? Que ton nom soit sanctifié. Si le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans notre comportement, rappelez-vous ce que j'ai dit, que ce qui fait la vraie piété, c'est la repentance et la sainteté. Que ton nom soit sanctifié. Un chrétien, il a ce souci de sanctifier sa vie. Tout le reste n'a aucun sens. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pardonne-nous nos offenses, etc. Si le nom du Seigneur n'est pas sanctifié, la prière, elle est caduque. C'est comme pour le psaume 23, si Jésus ne restaure pas notre âme, si je ne lis pas la parole avec mon cœur, si je ne le fais pas sérieusement, le psaume 23 ne sert plus à rien. L'Éternel n'est pas mon berger. Et tout le reste, ça devient de la frustration, parce que je ne le vis pas. Et c'est valable pour tous les textes bibliques, j'en avais mis un autre, les 10 commandements. C'est pareil, les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Le premier, c'est tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si on ne vit pas le premier, c'est impossible de vivre les nôtres. Est-ce que vous comprenez? On va s'attacher, on va devenir religieux. Il ne faut pas que je mente, il ne faut pas que je convoite, il ne faut pas que j'agresse quelqu'un, puis je vais aller en prison. Alors on fait les choses, mais c'est religieux. Mais quelqu'un qui adore Dieu aura de la joie de ne pas mentir. Souvent on m'a dit, mais vous êtes chrétien, vous ne pouvez plus mentir. Je dis, si, je peux mentir. Mais je ne veux pas mentir. Bien sûr qu'on peut mentir. On peut tout faire, ce qu'on veut. Mais quelqu'un qui aime Dieu, Je crois que quand il entend la parole, il dit « Mais oui, je vais rentrer avec les vêtements que Dieu veut. » Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que la religion est supérieure aux vêtements que Dieu propose. Pourquoi il y a des gens qui rentrent comme ça? Ils rentrent dans l'église, ils disent « Non, moi, j'ai pas besoin de me repentir. Moi, mes parents, ils sont de telle dénomination. Je vais pas les déshonorer. » Il y a des gens comme ça, oui, la parole, on s'en fiche. Mais ils vont surtout pas déshonorer la religion des parents. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cas de figure. Parce que la religion de vos parents, elle ne vous sauvera pas. C'est Jésus qui vous sauvera. Par son sang précieux qui a coulé au calvaire. Ah, moi, je comprends les gens du monde qui sont scandalisés. Vous voyez, hier, j'ai dû aller à la poste, j'ai discuté avec une femme, elle m'a posé des questions. Ah, elle me dit, oui, mais mon futur gendre, il est chrétien. Ma fille l'a quitté parce qu'il lui tapait dessus. J'ai dit, c'était pas un chrétien. Si, si, mais je vous assure, c'est un chrétien évangélique. Ah bon? J'ai dit, et vous? Ça fait rire, je sais pas trop. Le jour où on va passer devant Dieu, je pense qu'on risque d'avoir des difficultés si on a scandalisé des gens. Ça, c'est une chose qu'il faut régler. Peut-être que c'est l'occasion ce matin de le régler vraiment. Comment je marche dans la sainteté? Comment je vis dans la sainteté? C'est écrit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Ah bon? Oui, mais des fois, il y a des trucs qui coincent. Oui, c'est vrai. Quand Jésus a lavé les pieds aux apôtres, vous vous rappelez, ce jour merveilleux, c'était avant de mourir. Jésus a mis le comble à son amour. Et je pense que même avant l'enlèvement, le Seigneur peut mettre le comble à son amour dans une église. Avant de mourir sur le bois de la croix, Jésus, il a pris les 12, et il leur a lavé les pieds. Il n'a pas dit à Nathanaël, va chercher une bassine, dépêche-toi. Mathieu, va chercher de l'eau chaude, je vais vous montrer ce qu'il vous faut faire. Non, il a pris un linge, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour rappel, Jésus-Christ est le Dieu de l'univers, le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre, qui se revêt d'un linge, donc il prend la forme d'un serviteur, d'un esclave. C'était parce que les serviteurs, il y avait plusieurs catégories, mais ceux qui lavaient les pieds, c'était des esclaves. Il prend la forme d'un esclave, et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à leur laver les pieds, à tous, Judas compris. Pourquoi? Mais parce que dans notre marche, même si nous nous appliquons à garder nos vêtements blancs, il n'empêche que la vie est faite qu'il y a quand même une marche qui fait qu'on peut se salir un tant soit peu. Mais il y a une différence entre se salir les pieds parce que la marche est composée d'épreuves, de difficultés, de faiblesses, de manquements, de péchés occasionnels qui peuvent se présenter, de choses pénibles qu'on rencontre tous, et puis avoir son vêtement sale. Et quand vous regardez l'Apocalypse, sur les trois dernières fois où il est parlé du bonheur, on va le lire parce que c'est quand même bien. C'est un livre qui ne parle, pour ainsi dire, que de malheur qui va frapper la terre, mais il y aura la grâce de Dieu pour ceux qui se tourneront vers lui, mais il n'y aura plus le Saint-Esprit. Enfin, il n'y aura plus le Saint-Esprit comme aujourd'hui. Il y a quand même deux textes, alors que je ne me trompe pas. Alors, Apocalypse 22, verset 14. Deux fois, il est dit. Alors, Apocalypse 22, verset 14. C'est la dernière exhortation. Après, il y a un dernier avertissement, que de ne pas retrancher, de ne pas ajouter. Mais la dernière exhortation, elle est là. Après, il y a une invitation, etc. Ça, c'est une exhortation. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Vous pouvez dire Amen. Heureux les chrétiens qui comprennent que la vie avec Dieu, c'est sérieux. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui veulent un beau sermon, qui veulent entendre quelque chose d'agréable, comme je lisais cette semaine Ézéchiel, quand Dieu lui dit à Ézéchiel, mais quand ils s'assemblent pour t'écouter, comme tu habilles, comme tu prêches bien, ils sont contents, mais ils ne le mettent pas en pratique. Et il y en a peut-être ici qui disent, oui, monsieur Gau, il prêche bien, mais est-ce que tu le mets en pratique? Ou est-ce que ton cœur est éloigné d'eux? Est-ce que ce soir tu seras en train, ou tout à l'heure, en train de jurer, en train de parler grossièrement? Tout ça, c'est révélateur que ta vie spirituelle n'a pas de piété. Et si vous justifiez que vous avez un vocabulaire grossier parce que vous travaillez avec des gars sur le chantier qui sont grossiers, écoutez, moi j'ai travaillé avec des gens sur des chantiers, tout le monde parle grossièrement, et moi je n'ai jamais dit un gros mot. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un choix. C'est un choix de parler correctement. Oui ou non ? C'est un choix, la sainteté. Je choisis de marcher dans la sainteté. L'autre texte, il ne me vient pas à l'esprit, c'est peut-être au début. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas noté. C'est pas grave. Ah oui, Apocalypse 16, verset 15. Vous voyez, il y a sept fois le mot « heureux » dans l'Apocalypse. Bien sûr, c'est adressé à des chrétiens qui ont une vraie piété. Regardez ce verset, Apocalypse 16, verset 15. « Voici, je viens comme un voleur », ça fait allusion à tous les textes sur l'enlèvement, « heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Il y a des gens qui vont avoir une honte parce qu'à l'enlèvement, ils ne seront pas pris, parce qu'ils ne seront pas sanctifiés. C'est écrit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». Que ta volonté soit faite, qu'est-ce que tu veux ? Dieu veut la sainteté. Et ne vous imaginez pas que vous... Parce qu'il y a plein de chrétiens qui s'en sortent avec ce genre de verset. Regardez avec moi, c'est archi épineux, mais c'est la vérité. Alors c'est dans 1 Jean, regardez avec moi. 1 Jean chapitre 1er. Nous avons l'habitude, pour les gens qui croient dans la sécurité éternelle, c'est-à-dire les gens qui croient qu'on ne peut pas perdre le salut, ils utilisent la dernière partie du verset 7. D'ailleurs, souvent, la phrase n'est citée qu'en partie. On prend 1 Jean, chapitre 1er, et la fin du verset. La fin du verset 7, c'est quoi ? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous êtes d'accord ? Le sang de Jésus-Christ, le Seigneur, nous purifie de tout péché. Mais quand même, c'est grave de prendre que cette partie. Lisons le verset 6. Et là, jusqu'au texte qu'on a lu. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si, les si, c'est des conditionnels, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous avez vu la différence ? Le chrétien qui entretient une communion, même s'il se salit les pieds, ne jouons pas les super spirituels. Le chrétien qui marche avec Dieu, il se salit les pieds. D'accord. Il va travailler déjà. Jésus a dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez de même. Lavez-vous les pieds les uns les autres. Dans une église, on est là pour se bénir. On n'est pas là pour s'accuser, se juger. Ah, t'as fait ça, c'est pas bien. Ça, c'est moi qui le dirai. S'il y a des choses qui vont pas chez quelqu'un, ben, faites-les remonter. Je m'en occupe. Mais entre nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ? Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Nous devons nous encourager. Ah, t'as passé une mauvaise semaine ? Allez, c'est pas grave, prends courage. C'est ça, laver les pieds. Ah, tu es fatigué en ce moment. Mais repose-toi. Repose-toi. C'est important d'encourager les gens. Dans une église, on doit s'encourager les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque dimanche, dit le Seigneur. Chaque jour. Vous êtes sûr ? Madame Chapeau, vous me contrariez. Est-ce que c'est chaque jour ou chaque dimanche ? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, autant que l'on peut dire, aujourd'hui. Est-ce que mes frères... Mais si on ne reçoit rien, c'est sûr que si on ne reçoit rien, on est là, j'en ai marre. Mais il y a des gens, ils sont fatigués, s'ils arrivent et s'ils rencontrent quelqu'un qui en a encore plus marre que lui, c'est pas ça l'Église. L'Église quand même, est-ce qu'on peut recevoir de Dieu même si on est fatigué ? Sérieusement, est-ce qu'on peut donner du courage même si on a une épreuve ? Ben oui. Il y a une dame qui m'a appelé l'autre jour, elle me dit, monsieur Gaud, je ne sais plus si je vais à l'église. Toute l'église est découragée. Toute l'église est négative. J'ai dit, mais ça ne fait rien, tenez-vous devant Dieu. Recevez, peut-être que Dieu va vous utiliser à vous pour fortifier tous les autres. Elle me dit, vous croyez ? J'ai dit, oui, je le crois. Est-ce que Dieu peut utiliser un frère, une sœur qui est fortifiée pour bénir tous les autres ? Bien sûr, c'est du travail. Mais je crois que Dieu peut le faire. Exhortez-vous les uns les autres. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez de même. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, virgule, pourvu que vous les pratiquiez. Beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Les chrétiens, ils sont tout le temps en vrac. Moi, je leur dis souvent, vous devriez aller 15 jours à Mossoul. 15 jours à Mossoul, 3 jours à Alep, et vous revenez. Et vous allez voir combien c'est bien d'avoir à boire, d'avoir de l'eau, d'avoir à manger, d'avoir un toit, d'avoir des habits, d'avoir de l'eau chaude à la maison, etc., etc. Vous ne croyez pas que c'est une bénédiction ? Vous savez, quand on commence à pas remercier Dieu pour tout, surtout que la Bible dit, rendre des grâces en toutes choses, ça ne va pas. Si vous êtes tout le temps en train de râler, c'est qu'il y a un problème de repentance. Ça nécessite la repentance. Dans l'Apocalypse, ça va encore plus loin, puisqu'à la dernière église, le Seigneur ne dit pas « repens-toi », il dit « aie donc du zèle et repens-toi ». Ça laisse supposer que la repentance ne suffit pas, ça c'est archi grave. Ça veut dire qu'il va falloir du zèle, c'est-à-dire « oui, je vais me bouger », comme on dit. Je vais me remuer, parce qu'il faut absolument que je retrouve cette communion avec Dieu. La porte va se fermer, mes frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez que Jésus va revenir ? La porte va se fermer, la porte va être définitivement fermée. Pour être sauvé, il va falloir payer de sa vie, je le redis. Mais les gens, ils ne le croient pas. Les gens, ils pensent qu'on blague. Les gens pensent même qu'on est des illuminés. Les gens peuvent dire, ils sont exaltés, dans le mauvais sens du mot. Mes frères et sœurs, Jésus va revenir. Il va revenir chercher l'Église. Et si vous n'avez pas travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, que vous soyez pécheur, si vous n'êtes pas baptisé, vous êtes super concerné. Mais même si vous êtes chrétien, vous êtes tous conviés à améliorer votre piété. Et à pouvoir dire, mais oui, le sang de Jésus ne purifie pas de tout péché. Ce n'est pas vrai. Si je vis volontairement dans le péché, qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? Parce que ça, c'est un texte positif. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible ? Que si je vis volontairement dans le péché, ça fait 20 ans bientôt que je vous enseigne, vous n'avez pas retenu ça ? Hébreux 10. Regardez. C'est un texte des plus sévères qui existent. Mais lisez-le avec moi. Oui, vous croyez que Dieu pardonne tous les péchés ? Oui. S'il y a repentance. S'il y a une vraie repentance, pas des remords, pas des regrets, ah ouais, je t'ai mal parlé, mon épouse, j'ai été méchant avec toi, je regrette. Non, Jésus n'a pas dit regretter. Bien sûr qu'on regrette. Jésus a dit repentez-vous. Est-ce que vous faites la différence ? Il y a des gens qui s'imaginent que le regret, ou le remords, c'est de la repentance. La repentance, c'est une décision. Donc il y a le péché que Dieu pardonne, c'est clair, quand on est en communion avec Dieu, je marche avec Dieu, je lui obéis, ah mais là je me suis loupé, ah je me suis laissé aller, tiens j'ai regardé cette publicité, bon, cette femme est moitié dévêtue, j'aurais pas dû la regarder. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ? Pardon Seigneur, j'ai regardé cette femme, j'aurais pas dû la regarder. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que ça peut arriver de... Oui, c'est écrit. Celui qui regarde une femme pour la convoiter. Pour la convoiter, c'est archi grave, parce que ça veut dire que le gars, il veut arriver à ses fins. Ce n'est pas celui qui est tenté en regardant une femme. Mais ça ne fait rien. Même si on a eu un regard, vous savez, Salomon, moi cette semaine, j'ai pensé souvent à ce verset, peut-être c'était pour ce maintenant, quand il a dit que Salomon s'est fait prendre par les femmes au temps de sa vieillesse. C'est quand il était vieux. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, il n'y a pas que quand on est jeune qu'on a des tentations. On a des tentations toute notre vie. Donc regardons maintenant dans Hébreux 10 ce que le Seigneur dit. Ça n'annule pas ce que je viens de lire dans 1 Jean, ça complète ce que je viens de lire. Hébreux 10, verset 26. Car, et ceux qui croient dans la sécurité éternelle, relisez-le et la semaine prochaine vous viendrez me trouver. D'accord ? Hébreux chapitre 10, verset 26. Car, si nous péchons volontairement, donc vous avez compris, le péché volontaire. Il y a le péché involontaire et le péché volontaire. C'est facile à comprendre quand même, oui ou non ? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. C'est une question. Vous avez vu ? Profaner le sang de l'Alliance, outrager le nom du Seigneur, outrager l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce. Et il y a plein de gens qui disent, mais non, on peut pécher, c'est pas grave, Dieu pardonne tout. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour les gens qui ont une vraie piété. Et Jésus reviendra chercher ceux qui obéissent. Est-ce que c'est écrit que Jésus reviendra chercher, enfin plutôt c'est l'inverse, que Jésus ne prendra pas ceux qui n'obéissent pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui, c'est écrit, 2 Thessaloniciens. C'est écrit que ceux qui n'obéissent pas, Dieu ne les prendra pas. Il est dit qu'ils reviennent, on est dans les Hébreux, mais c'est justement, tiens, c'est dans, juste avant. Hébreux 9, verset 28, verset 27. Ça, pour les gens, au cas où il y aurait quelqu'un qui croit à la réincarnation, parce qu'il y a des gens qui croient à ça, vous voyez. Il y a des gens, ils sont chrétiens, et en même temps, ils sont bouddhistes. Ne riez pas parce que c'est vrai, je l'ai vu ici. Hébreux 9, 27. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent. L'attendre, ce n'est pas l'attendre comme les vierges folles. Hein. C'est l'attendre avec ce souci d'obéir. Si ce sont ceux qui l'attendent avec cette grâce de Dieu. Comment attendez-vous le Seigneur? Comment êtes-vous entré dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes rentré par une vraie repentance? Oh, j'ai entendu dernièrement, mais non, maintenant les gens peuvent les baptiser de suite. Il y a un monsieur qui m'a écrit tout un truc sur Internet pour essayer de m'expliquer que les gens dans le Nouveau Testament, ils étaient baptisés de suite, alors que dans les églises, qu'est-ce que c'est ce travail? Il faut baptiser les gens de suite. Mais je pense qu'à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque où ça a été écrit, les gens fréquentaient des synagogues, ils connaissaient la loi de Dieu, etc., etc. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens connaissent la parole de Dieu, et il vaut mieux peut-être les débriefer un peu avant de les baptiser. Mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Comment êtes-vous entré dans l'Église du Seigneur? Moi, je vous assure, si je vous racontais tout ce que j'entends, je crois que Dieu permet que j'entende des trucs de fous, mais des trucs de malades, des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Alors moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, comment attendez-vous le Seigneur? Comment allez-vous entrer? Bien sûr que ce qui s'est passé dans la parabole ne pourra pas se passer. Il n'y a pas quelqu'un qui va être enlevé, et quand il va être au ciel, on va lui dire, il n'y a pas un ange qui va dire, écoute, nous, on s'est trompé. Excuse-nous, on s'est trompé, tu redescends, s'il te plaît. Ça ne va pas se passer, ça. Dieu n'enlèvera que les chrétiens qui sont prêts. Mais il n'empêche une chose, c'est qu'il y a des efforts à faire. Quand le Seigneur dit achetez de l'huile. Ah bon, il faut acheter le Saint-Esprit, comme j'ai entendu. Mais bien sûr que non, le Saint-Esprit ne s'achète pas, mes frères et sœurs. Mais il faut faire un effort pour que la vie de l'Esprit nous soit communiquée. Quels sont les efforts que je fais? Est-ce que vous faites des efforts pour le salut de votre âme? Ah, moi, j'ai pas le temps de lire, je suis crevé, je préfère le soir regarder, je ne sais pas quoi, une émission. Mes frères et sœurs, si vous ne vous occupez pas de votre âme, vous allez le payer cher. Vous allez rentrer n'importe comment, les pleurs et les grincements de dents, c'est pour les hypocrites. Mardi soir, on verra la suite avec les gens qui sont hypocrites. Les serviteurs hypocrites. Il y en a des pasteurs hypocrites, des chrétiens hypocrites? Qui auront battu les gens, battu avec la langue. Est-ce qu'on peut battre quelqu'un avec la langue? Quand il a dit, ce serviteur qui aura frappé son serviteur, le maître qui aura frappé son serviteur, ça veut dire, le mot, je ne suis pas dans le grec, mais des fois je recherche quand même, ça veut dire frapper verbalement avec la langue. On peut faire du mal avec la langue. Et nous devrions avoir cette grâce de pouvoir faire du bien tant que la porte est ouverte. Mes frères et sœurs, Jésus va revenir. Vous le croyez? Et il faut que nos péchés soient effacés. On va terminer, vous savez, avant de terminer la lecture, on va le lire quand même dans Ésaïe. Je vais marquer ce texte dans Ésaïe. Regardez, on va prendre le pain et le vin bientôt, mes frères et sœurs. Combien je voudrais qu'on soit sérieux quand on va prendre le pain et le vin. Et si vous n'êtes pas encore baptisé par immersion, que vous ne preniez pas le pain et le vin, soyez autant sérieux que ceux qui vont se lever. Remettez-vous en question. Prépare-toi. Regardez dans Ésaïe, franchement. Si une petite larmette ne commence pas à monter, c'est qu'il y a un problème. Ésaïe 43, verset 25. C'est Dieu qui parle, bien entendu. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'ai ajouté un tout petit à côté, alléluia. C'est écrit de nouveau, verset 22 du chapitre 44. J'effacerai tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Vous ne trouvez pas qu'ils sont merveilleux ces versets? Voilà la grâce de Dieu. J'effacerai dans le psaume. Vous lirez le psaume 51 ce soir. Vous allez voir comment David il supplie Dieu. Efface mes transgressions. Deux fois il le dit. Efface mes transgressions. La transgression, elle est effacée par une vraie repentance. Vous rappelez Samson? Vous rappelez Samson? Vous rendez compte le ministère que Dieu lui avait confié? Dieu lui avait donné la force. Est-ce qu'il en a été digne? Non. De la même manière que Dieu avait donné à Samson la sagesse, il n'en a pas été digne. Vous allez me dire, le seul qui est digne d'avoir la force et la sagesse, c'est le Seigneur. Mais enfin, quand même, lui, il a préféré s'orienter vers les femmes. Vous savez comment ça a fini? Vous savez comment ça a fini? Le juge en Israël, Samson, ça veut dire petit soleil, il aurait dû éclairer la nation par son ministère. Le problème, c'est qu'il n'y avait que des nuages. Imaginez-vous cet homme de Dieu, cet homme qui avait reçu de Dieu la force. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin de sa vie? Enfin, à la fin de sa vie, au milieu de sa vie, il restait 20 ans juge en Israël, donc il avait 40 ans. Il était dans une meule, dans une prison, en train de faire le travail d'un animal. Il tournait la meule dans la prison de l'adversaire. Sincèrement, combien de chrétiens, les yeux crevés, soyons pas, je ne veux pas être dans l'accusation, loin de là, je veux être dans la miséricorde et dans l'effacement des transgressions. Combien de chrétiens ont les yeux crevés et tournent en rond dans la prison de l'ennemi? Oui ou non? Il y a des chrétiens qui tournent en rond. Vous les voyez, 5 ans à prison, pas fait un pas de plus, pas un progrès. Ils croient en Dieu, ils viennent à l'église, etc. Mais quand même, combien de gens... Moi, quand je pense à Samson, ça me fait de la peine. Et en même temps, je suis béni parce qu'il est dit que ses cheveux recommençaient à croître et que le jour d'une certaine fête que les Philistins faisaient, eh bien, il a demandé à un jeune homme de l'accompagner entre les deux colonnes du temple. Et vous savez ce qui s'est passé? Les cheveux ont recommencé à croître. Heureusement que la grâce pousse plus vite que les cheveux. Et vous savez ce qu'il a fait? Et quand je vois dans le livre des Hébreux que notre cher Samson, il fait partie des héros de la foi, tu te dis, attends, t'es sûr? Oui, c'est lui, c'est le même, il n'y en a qu'un. Ouf, sérieusement. Ouf. Il s'est repenti, mais il a gâché sa vie. Alors il est mort en vainqueur. Que Dieu nous accorde la grâce de mourir en obéissant. Mais mes frères et sœurs, béni soit Dieu pour les vraies repentances. Parce que la piété, la vraie piété, c'est une vraie repentance. La vraie piété, c'est une vraie sainteté. Pas une sainteté qu'on aimerait. J'aimerais aimer Dieu. J'aimerais marcher dans la sainteté. Non, la vraie piété, je me repens. Pierre le dit à la Pentecôte, il dit, mais repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Le problème, c'est que les gens, oui, ils entendent une prédication de ce style. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il faut que je me tienne à carreau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Seigneur. Il a raison, ce pasteur. Mais il faut décider que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. Vous imaginez si c'était ma dernière prédication? Sérieusement. Ça va bien arriver, un de ces quatre, que je vais prêcher pour la dernière fois. Et moi, j'ai pas envie que Dieu me dise ce qu'il devra dire à tout un tas de pasteurs qui auront fait du cinéma. Il va dire à des pasteurs, c'est écrit, retirez-vous de moi. Et je sais, hélas, que c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il vous dira? Vous n'avez pas envie d'entendre? Entre. Monsieur Fatah, c'est comment votre prénom? Comment? Bruno, entre. Vous n'avez pas envie d'entendre? Bruno, entre dans la joie de ton maître. Regarde la maison que je t'ai préparée. Mais avant, tu vas aller aux noces de l'agneau. Avec Fouzian, avec Nicolas. Tu sauras, toi? Jérôme. Mais on va retrouver les bien-aimés. Vous imaginez la fête pendant que sur la terre, la guerre de Magog et de Gog et de Magog va s'installer. Et nous, on sera au ciel, revêtus de robes blanches, finis les aspirateurs, finis tous les... Oui, mais c'est vrai, il n'y aura pas de poussière au ciel. Ça vous fait rire? Moi, ça me réjouit. Parce que je me suis engagé il y a des années à faire du repassage à ma femme. Là, il n'y aura pas de repassage, je ne pense pas. C'est vrai ce que je vous dis. On me dit des fois, tu réfléchis trop. Mais ce n'est pas grave. Mes frères et sœurs, on le relit ce verset, il efface. C'est moi, dit Jésus, moi, dit le Seigneur, qui efface tes transgressions. Alléluia. je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est ce que Dieu a dit à Samson. Quand Samson passera devant Dieu pour le jour des comptes, si ça a été réglé, tout ce qui a été réglé, ça ne ressortira pas. Je ne me souviendrai plus. Des fois, on me dit, mais monsieur Gros, les péchés, ça ressortira. Non, les péchés qui ont été réglés. Tous les péchés qui ont été réglés, Dieu ne s'en souviendra plus. Tous. Alors, ne vous traumatisez pas pour les péchés avant votre conversion. Ça s'est réglé d'office. Mais même les péchés après votre conversion, si vous avez demandé pardon à Dieu, écoutez, vous le croyez. Je ne m'en souviendrai plus, dit le Seigneur. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine de dire, mais Seigneur, c'est clair. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, même si tu reviens très bientôt, mais Seigneur, je vais m'appliquer à travailler à mon salut. Gloire à Dieu.